Ah, bonjour tout le monde. C'est une joie de vous voir et je pense que c'est ça. Il y a des enfants qui sont heureux d'aller dans leur groupe à eux maintenant. Et nous aussi, ça va nous permettre de continuer notre voyage dans le livre d'Exode. En fait, on va ce matin revenir sur le thème de dimanche passé. Vous vous souvenez que le livre de l'Exode, en fait, ben, le mot « Exode » veut dire « la sortie ». Donc, le livre, il est nommé en fonction du fait que le peuple d'Israël a été appelé à sortir d'Égypte. Et puis, le moment le plus dramatique, le plus grandiose, le plus triomphal, c'est quand, par le miracle de Dieu, ils ont traversé la mer des joncs et au chapitre 14, et on en a parlé la semaine passée, vous vous en souvenez bien, ceux qui étaient là, notre frère Troy nous a conduit dans ce texte et son thème était « Les barrages routiers, comment y faire face? » Et moi, mon thème d'aujourd'hui est en gros le même, « Les barrages routiers, c'est comment y faire face, mais aussi souvenons-nous. » Parce que un aspect du livre, c'est que ça a été mis par écrit, ce barrage routier que Israël a traversé avec l'aide de Dieu, par la puissance de Dieu, en fait. Et c'est devenu une référence dans leur mémoire. Et c'est la même chose pour nous, c'est le même principe dans nos vies. Souvenons-nous. On va revisiter le texte ce matin et nous souvenir aussi de ce que Troy nous a dit. Et on va visiter aussi des événements plus récents dans la vie de l'Église et aussi dans des vies ou une vie personnelle. Il y a notre sœur Malberly qui va nous raconter quelque chose plus tard. Et on est avec toi dans la prière, Malberly. Alors, le souvenir des barrages routiers du passé que nous avons pu surmonter, ce souvenir fortifie notre foi et nous amène à célébrer Dieu. Et donc, on va, comme toujours, après le message, on va continuer dans la louange. C'est une belle chose qu'on fait à l'Oasis de terminer la célébration par un temps de louange, un temps de merci. On a une diapo ici qu'on veut sauter. Il y a comme une vidéo là, okay, c'est bon, on l'a sauté. On ne va pas regarder la vidéo, on va lire le texte maintenant. D'abord, un mot de prière. Oui, Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur pour t'entendre, toi, à travers ta parole. Amen. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. La délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénètrent après eux, et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Amen. Donc, comme j'ai dit, je vais rappeler les trois points clés que Troy nous a enseignés sur comment faire face aux barrages routiers. Je vais mentionner quelques barrages routiers dans la vie de l'Oasis récente et on va écouter une sœur concernant un barrage routier quand même assez majeur auquel elle a fait face avec Dieu. Voici ce qui est important ce matin. Quand Dieu nous appelle à marcher dans un chemin, et on est tous appelés, si on est ici ce matin, tous appelés à suivre Dieu dans un chemin, pour le servir quelque part. Donc, s'il nous appelle dans un chemin et qu'un barrage routier se dresse devant nous, n'oublions jamais que Dieu sait d'avance que ce barrage était là, que ce barrage va être là. Et il veut glorifier son nom à travers le barrage, à travers notre traversée du barrage, à travers notre réponse de foi, comme il l'a fait avec Israël. Troy nous a expliqué. Oups, il me manque une diapo. C'est pas grave. Je vais vous dire les trois points. Premièrement, vous vous souvenez, on peut crier à Dieu dans un barrage routier. Crier à Dieu, c'est la forme la plus simple de la prière. Crier à Dieu, c'est simplement, j'ai un problème et je crie, « Seigneur, aide-moi! » C'est tout à fait correct de prier comme ça. Dieu veut que nous crions à lui. Il veut aussi que nos cris de peur se transforment en des cris de confiance. Mais il va nous aider avec ça. Le deuxième point, donc, crier à lui, deuxième point, restez calme. Donc, Dieu dit au peuple, soyez silencieux et attendez. Et donc, quand on est devant un problème comme celui-là, c'est d'attendre que Dieu nous fasse un signal, que Dieu nous dise, « OK, maintenant, tu peux y aller. » En attendant, attendre, prier, rester calme. Ne pas agir dans la panique. Vous vous souvenez, dimanche passé, Troy nous avait parlé de l'achat d'une voiture qu'il avait faite et Dieu a béni cet achat, mais il s'est rendu compte après, « J'ai précipité mon geste. » Et je pense... C'est quelque chose que le Saint-Esprit lui disait. Je pense que j'aurais été béni encore plus si j'avais attendu. Mais j'étais impatient. J'étais stressé. Donc, apprendre à rester calme et attendre. Mais on a vu un troisième point aussi. Qu'à un moment donné, Dieu nous dit, « OK, maintenant, c'est le temps d'avancer. Hein? » Dieu dit aux Israélites, « Commencez à marcher maintenant. » Donc, le signal est venu. Mais en fait, c'était juste le premier pas. La mer n'était pas encore divisée. Et ils ont commencé à marcher, et c'est seulement à ce moment-là que Moïse a étendu le bâton sur la mer et que le chemin s'est frayé. Donc, dans un cas comme ça, et ça peut arriver dans ta vie, il faut que tu te mettes à marcher. Il faut que tu te mettes à marcher. Tu as peut-être reçu le signal de Dieu, mais c'est juste le premier pas. Et il faut que tu marches par la foi. Il faut que tu fasses une sorte de saut dans l'invisible. Alors, c'est bien de se souvenir qu'il y a 3500 ans ou quelque chose comme ça, le peuple de Dieu a traversé la mer des joncs. Mais vous savez que c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Amen. Hein? Si nous sommes chrétiens, si nous suivons Christ, c'est que nous croyons au même Dieu qui a levé, qui a frayé un chemin pour Israël. Et donc, nous vivons aussi des barrages routiers avec lui. Je voudrais rappeler, en fait, trois histoires le Seigneur m'a rappelé des situations de notre Église. Donc, certaines personnes étaient présentes avec moi à ces époques-là. Moi, je suis ici dans l'Oasis depuis 1999 à peu près. Et donc, ça fait longtemps, ça fait 25, 26 ans. Je me souviens qu'en 2008, on était, en fait, dans un autre local, à Dollard des Ormeaux, et notre église était comme face à un genre de mur. On stagnait comme église et même on perdait du monde. On faisait des invitations dans le quartier où on était et les gens ne répondaient pas. Et en plus, là où on se réunissait, c'était l'après-midi et il y avait des gens pour qui ça convenait, mais pour beaucoup de gens, c'était moins intéressant et on a commencé à perdre des membres et on a fait une réunion, on a commencé à crier à Dieu dans la prière. Et dans une de nos réunions, il y a deux sœurs qui se sont levées, deux sœurs qui ne s'étaient pas consultées. Et elles avaient reçu en prière, chacune de leur côté, l'idée de déménager notre église à Amabé. Puis Amabé, c'est ici. C'est le quartier ici. Parce que Mimi avait commencé un travail de porte-à-porte dans Amabé. Et nos visiteurs qui venaient dans notre autre quartier nous visiter, venaient quasiment tous d'Amabé, mais ils venaient une fois, puis ils ne revenaient pas après, parce que c'était loin, parce que ce n'était pas leur quartier. Alors, il y a eu ce témoignage de ces deux sœurs, et on priait là-dessus. Et par la même occasion, il y a eu une offre de Jeunesse sans limite qui dit « on veut acheter » ce restaurant, c'était un restaurant ici avant. Et est-ce que vous aimeriez venir ici en partenariat avec nous? Et tout ça, ça s'est comme mis ensemble et le Saint-Esprit nous a guidés. On a dit oui, on va déménager à Amabé, on va louer ici à la Corde. Et à Noël 2008, nous avons fait un pas important. On a organisé une très grosse fête pour les familles du quartier ici, en partenariat avec la Corde. Et je relisais nos archives. Apparemment, il y avait 200 personnes du quartier qui étaient à cette fête. Il y avait des cadeaux pour tous les enfants. Et c'était le début, donc, de cette nouvelle période dans notre Église. Et l'Église a recommencé à grandir. Alors, vous voyez, il y a des situations, on ne se souvient pas toujours, mais on était quand même inquiets. Qu'est-ce qui va arriver à notre Église? Dieu a frayé un chemin. En 2015, maintenant, on cherchait un nouveau pasteur. Parce que notre pasteur de cette époque, de toute cette époque, en fait, Michel Hull, avec Lise, avait annoncé sa retraite pour 2016. Et moi, j'étais à l'époque un ancien dans l'Église, dans une petite équipe de trois anciens. Gunner, tu étais dans cette équipe aussi. Et Cheryl, c'était l'autre. Et l'autre ancien. J'étais celui, on pourrait dire, je ne sais pas trop comment dire ça, j'étais celui avec peut-être le plus d'expérience pastorale. Qu'est-ce que c'est l'expérience pastorale? On peut débattre. Parmi les trois anciens, je veux dire. Et je travaillais dans une œuvre chrétienne. Et en fait, je venais de commencer un nouveau travail exigeant à l'ETEC, la faculté de théologie. Et c'était une époque, et Francis, tu t'en souviens, une époque où il y avait une sécheresse au niveau des candidats au pastorat. Il n'y en avait pas. Et c'était difficile, les églises qui cherchaient des pasteurs. Et on m'avait orienté vers une autre église de l'Alliance qui étaient dans la même situation, qui cherchaient un pasteur devant 2 ans. Et je les ai consultés pour avoir des conseils, mais ça m'a plus poussé à genoux qu'est-ce qu'ils m'ont raconté. Ça m'a alarmé. Donc, ils cherchaient un pasteur depuis 2 ans. Et l'ancien principal de cette église-là, qui était dans la même situation que moi, mais depuis 2 ans, avec un emploi à temps plein, avec beaucoup de responsabilités, il avait, on pourrait dire, le soin pastoral de toutes les églises sur son cœur à lui, et il devait chercher un nouveau pasteur. Donc, 3 jobs difficiles sur ses épaules, et il commençait à fatiguer. Et moi, j'ai dit, oh là là, j'ai peur pour moi-même. J'ai peur pour mon église, j'ai peur pour moi-même. Et j'ai commencé à crier à Dieu, pas juste moi, mais les autres anciens aussi. Et j'ai pris une journée de congé pour aller sur la montagne. J'étais allé sur le Mont-Royal, journée off, pour prier, pour demander à Dieu, prépare-moi pour ce rôle qui va être difficile, d'après ce que je comprends maintenant. Et je me promenais dans les cimetières sur le Mont-Royal, et j'étais en train de prier, et puis j'ai senti que Dieu me disait quelque chose. Il me disait, Marc, soumets ton nom à l'Église comme le pasteur, soumets ton nom, puis laisse-moi, je vais m'occuper du reste. Voici une étape à la fois, mais soumets ton nom. Et c'est ce que j'ai fait. Et je m'attendais à ce qu'une porte se ferme à un moment donné, mais Dieu a ouvert ce chemin-là. Même ma femme qui m'a dit une chose que je te demande, là, je veux jamais être femme de pasteur, d'accord? Mon père a déjà été pasteur et j'ai pas aimé ça. Ma mère a pas aimé ça. Et c'était la première porte à laquelle je devais frapper, je suis rentré chez nous, j'ai dit, tu sais qu'est-ce que Dieu m'a dit sur la montagne, Cheryl? Je pense qu'il m'a dit, soumets ton nom. Puis elle m'a répondu, oui, il faut que tu le fasses. Et elle a dit, mais je me suis pas reconnue. Puis maintenant, elle le regrette. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, ça fait quand même 9 ans de ça. Dieu a vraiment ouvert la mer. Pour un temps, donc, une nouvelle direction. Pour moi, mais aussi pour l'Oasis. Les pasteurs, c'est pour des périodes seulement. Mais voilà. Un autre exemple de barrage routier et Dieu répond à nos cris. Moi, je voulais juste mentionner aussi un autre fait intéressant. Je parle maintenant de février 2020. Quand Troy a prêché barrage routier pour la première fois, parce qu'il l'a dit la semaine passée, hein, que c'est un message qu'il a déjà donné, mais c'était en février 2020. Que Troy avait prêché barrage routier. Alors, février 2020, il a parlé de sa vie, il a parlé de nos vies, mais quelques semaines plus tard, un gros barrage routier tombe sur la planète tout entière. Donc, la pandémie, et avec la pandémie, tout ferme. On est confiné, le confinement. Et c'était une grosse crise pour toutes les églises, pas juste les églises, les écoles et tout. Mais je trouve intéressant que maintenant que j'y pense, les leaders de l'Oasis, on s'est réunis, on a crié à Dieu et il nous a montré des solutions. Et on n'était pas seuls. Parfois, on voyait qu'est-ce que d'autres églises faisaient, mais avec l'Internet, avec le téléphone, avec la prière, le travail à distance, les réunions à l'extérieur des bâtiments, on a trouvé un autre chemin. On a trouvé un autre chemin. On a développé des nouvelles choses. On a développé donc le travail avec les bases de données et le Zoom. Et même, j'ai une sœur qui est une catholique pratiquante, qui était dans l'administration de sa paroisse à Ottawa, qu'ils étaient complètement dépourvus. Et puis, elle me demande, « Quoi? Vous avez une base de données? Vous avez les adresses courriels de tous vos participants? » J'ai dit oui. Elle est venue chez nous, puis on lui a montré. Elle a tout développé pour qu'ils puissent faire leur célébration par Zoom. Et à la fin de la pandémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement québécois, pendant un certain temps, nous a obligés par une loi à vérifier ici à la porte que chaque personne qui rentrait avait un passeport vaccinal avec la preuve qu'ils étaient comme à jour dans leur vaccin et que nous étions tenus de dire aux gens de retourner chez eux si ils n'avaient pas ça. Et on s'est réunis, on a prié, on a consulté d'autres églises. On a décidé qu'on fermerait l'église, qu'on retournerait sur Zoom. On a senti que c'est ça que le Seigneur nous demandait de faire. Et l'église a continué, mais ça a été seulement pendant quelques semaines. Par la grâce de Dieu, le gouvernement a ôté ce nouveau règlement après quelques semaines. Et on a pu revenir dans la bâtisse. Amen. Alors, c'est le même Dieu. Nous sommes le même peuple, nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes le Dieu qui nous aide dans nos barrages routiers et dans nos vies personnelles aussi. Troy et Laurely nous ont partagé cette histoire la semaine dernière où ils ont été envoyés comme missionnaires ici au Québec et les responsables de leur mission ont fermé l'œuvre, fermé toutes les opérations au Québec. Mais eux, ils sentaient que Dieu leur demandait de rester au Québec. Gros barrage routier, puis vous avez entendu l'histoire de comment ils sont restés. Ils sont encore parmi nous. Maintenant, je voudrais... Oui, ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Maintenant, j'aimerais inviter une sœur à venir en avant et nous raconter un gros barrage routier qu'elle a rencontré avec sa famille dans votre pèlerinage, votre voyage vers le Canada, votre nouveau pays. Et je veux juste mentionner, au niveau géographique, l'histoire se passe dans cette région en vert. Donc, en bas, c'est l'Amérique du Sud, puis comme la partie qui est à gauche, ça, c'est l'Amérique centrale. Donc, entre la Colombie et le Panama, il y a une forêt redoutable qui s'appelle la forêt du Darién. Et c'est une forêt extrêmement dangereuse. C'est même quand on lit les livres d'histoire, je ne sais pas si tu sais ça, Malberly, mais même les armées espagnoles qui ont conquis toute cette région du monde redoutaient cette forêt-là. Les armées ne voulaient pas passer par cette forêt-là, c'était trop dangereux. Alors, ce qui arrive, c'est que beaucoup de demandeurs d'asile qui se rendent jusqu'au Canada, s'ils n'ont pas l'argent pour prendre l'avion ou le bateau, ben ils traversent cette forêt à pied. C'est le cas de Malberly et son mari Robinson et leurs enfants. Je vais t'inviter maintenant au micro et tu vas nous raconter un barrage routier.
Ici, c'est bon, oui. Bonjour, l'Oasis. Ne me regardez pas beaucoup, même si je suis dans l'équipe de louange, je suis un peu timide quand je suis en avant.
Tu veux que je sois proche de toi ou tu veux que je
Non, ça va. Oui, comme Marc l'avait dit, comme un peu de vous le sache déjà. Nous, moi et mon mari, mes jumeaux sont nés au Brésil, nous étions au Brésil. Et comme moi et mon mari, nous avons d'autres enfants, nous avons décidé de quitter le Brésil pour la situation économique. Nous avons dit que nous allons déplacer vers un autre pays pour changer notre situation. On a décidé de laisser le Brésil. On a quitté le Brésil, on a passé le Bolivie, on a passé le Pérou, l'Équateur et Colombie. De Colombie, en Panama, c'est là qu'on a passé le forêt que le pasteur vient de vous expliquer. C'est là que toute l'histoire va se déployer. Quand on a rentré, pour vous dire, mon mari, lui, il ne voulait pas laisser le Brésil. Lui, il est né en Haïti, mais dans sa tête, lui, il est brésilien. Lui, il ne voulait pas laisser. Il ne voulait pas, mais j'ai dit non, on doit se déplacer, on doit changer les choses. Et il me dit, comme on est ensemble, toi, tu as déjà décidé. Si c'est ça que tu veux, on va le faire. Mais moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je mets ça sur mon cahier, je mets ça dans ma tête, je mets ça dans mon cœur, je mets ça partout, je suis persistante. Dès que je n'aurai pas fait ce que je veux, ça ne va pas s'arrêter. Et comme il a vu, comme j'étais persistante envers lui, il m'a dit, OK, on va se déplacer. On a laissé le pays, on a parti le 12 juillet 2021. J'ai laissé mon travail. Lui, il n'a même pas eu le temps de laisser son travail parce que lui, il ne voulait pas partir. J'ai laissé mon travail. Lui, le jour qu'on allait partir, c'est là qu'il allait dans son travail pour dire qu'il va laisser, il va quitter, il va partir. On est venu. On a passé les autres pays que je viens de dire. Quand on est arrivé à Colombie, il m'a dit que on a le temps, on peut retourner. Il a le temps, on a le temps. Je dis non, mais on a déjà dépensé beaucoup d'argent pour arriver jusque là parce que dans tout le trajet, où on va passer, on donne de grosses sommes d'argent pour passer et ensuite. On prend beaucoup de risques parce qu'on doit surveiller les immigrations, on doit faire tout ça. Parce que quand on va dans ces pays-là, on n'utilise pas les passeports, on n'utilise pas les documents. Et nous aussi, on a pris le risque, on a laissé le Brésil avec notre passeport expiré. Ça veut dire qu'on ne pourrait même pas recevoir de l'argent de l'extérieur. On est parti avec beaucoup d'argent pour arriver jusqu'à Colombie. Quand on arrive à Panama, c'est là qu'on va recevoir une autre somme d'argent pour continuer pour faire le chemin. Et quand il m'a dit « on a le temps de réfléchir, on peut retourner », j'ai dit « non, on ne va pas retourner, on va continuer ». J'avais toujours un petit poids à perdre. J'avais toujours, il m'a dit « regarde-toi, tu ne peux pas marcher ». J'ai dit « je ne sais pas, mais on va y aller ». Dans le premier jour qu'on devrait quitter un endroit pour aller à pied, tout le monde nous a laissé. Il m'a dit, tu vois, on a le temps, tu peux même pas marcher. On a le temps de retourner. Je dis, non, on va pas retourner, on va aller. Le monsieur qui allait nous guider dans le chemin, il nous a attendus. On a marché tranquillement. Parfois, lui, il prend un enfant, il va en avant, il laisse l'enfant, il vient me chercher, il m'aide comme il peut. On marche, et après, dans le jour qu'on allait commencer le forêt, on a pris le bateau, tout ça, on a pris on doit prendre un bateau pour traverser un grand rivière. Quand on traverse le rivière, c'est là qu'on va commencer à marcher à pied. Il y a des gens qui le font dans 2 jours, dans 3 jours, ça dépend de toi. On avait bien décidé, on a dit, dès que lui, il me voit, il voit les enfants, moi, je le vois, même si tout le monde nous laisse, dès qu'on est ensemble, on va résister. Lui, il a conclu ça. On a commencé avec un petit groupe à marcher. Moi, je ne pouvais pas marcher, le petit groupe, il nous a laissé. On a fait un autre petit groupe encore, je ne pouvais pas marcher, le petit groupe nous a laissé. Lui, il était patient. Parfois, moi, je m'énervais. Je dis, mais prends tes enfants, vas-y, laisse-moi. Il dit, non, je ne vais pas te laisser. Je t'avais promis qu'on allait sortir ensemble, on va sortir ensemble. À chaque fois, Une fois qu'on allait, on allait descendre dans une rivière parce que le monsieur, il nous a dit, on peut pas prendre toutes les montagnes parce que moi je pouvais pas marcher. Il a dit, vous allez passer plus de routes qu'il y a beaucoup plus d'eau que de montagnes. Et quand on avait descendu pour aller passer dans l'eau, là j'arrivais à mon bout. Je dis, là je peux pas continuer. J'ai commencé à pleurer. Je dis, je vais pas continuer. Prends tes enfants, vas-y. Quand tu arrives à Panama, si j'arrive, j'arrive. Si j'arrive pas, tu continues ta vie. Il voulait pas y aller. On est resté là, on a passé la nuit là, tout ça. Le lendemain, je marchais, je pleurais. On arrivait à un bout, mon pied il était coupé, le bas de mon pied il était coupé, je pouvais plus avancer. Le monsieur qui nous guidait, il a appelé mon mari, il a dit, ta femme elle peut pas continuer, qu'est-ce que vous allez faire? Et il dit qu'il va demander à les autres personnes s'ils veulent rester où on est pour passer la nuit, comme ça moi je vais reposer et comme ça demain on va reprendre la route. Les autres ils ont dit, moi j'ai de l'énergie toujours, je peux continuer, je ne sais pas pour elle. Le monsieur a dit, moi je ne peux rien faire, je ne peux pas obliger les gens à rester avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et moi aussi je ne peux pas rester avec vous. Mon mari a dit, on va continuer. Mon mari a dit, non, tu ne peux pas. Comment tu vas y aller? Mon pied était coupé, je ne pouvais pas marcher. J'avais Daniel dans mes mains. J'ai pris Daniel, j'ai mis sur ma jambe et je pleurais. Tout ce qui était dans ma tête, je disais, mon mari ne voulait pas y aller. Je devrais écouter, mais je n'ai pas écouté. On est là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais jusqu'à nos jours, parfois, ça me fait mal quand je pense à ça. Mon mari, il m'a regardé beaucoup. Il m'a regardé quand le monsieur a dit que ta femme, il pouvait pas. Il m'a regardé, il a commencé à pleurer. Il a dit, moi, je suis un homme. Je suis un homme. Mon papa a toujours dit, quand on est un homme, il prend une décision, il ne doit pas se retourner. J'avais dit, non, je devrais rester dans mon nom. Je devrais pas suivre ma femme. Maintenant, j'ai amené mes enfants et ma femme pour mourir dans le forêt. Ça m'a comme s'il m'a tué quand il a dit ça, parce que c'est moi qui lui a obligé à y aller. Ça m'a tué. J'ai dit, non, chérie, ne parle pas comme ça. Je voulais pas t'obliger, mais je voulais qu'on ait une nouvelle vie pour nos enfants. Si on doit passer avec ça, on va se lever. On va se lever. On va prier Dieu, on va se lever. On va rester là. On va passer la nuit là. Je sais que Dieu lui-même, il va venir en aide. Il va venir nous aider. J'avais beaucoup de confiance. C'est comme si dans ma tête, Dieu même, il va descendre, il va nous prendre, il va nous amener où on doit y aller. J'ai dit, on va passer la nuit là. Le monsieur qui nous guidait, il nous a dit, moi, vous m'avez payé pour vous guider, mais je ne peux pas rester avec vous. Je vais faire une vidéo, pour avoir la preuve si vous arrive quelque chose demain pour que vous ne me culpabilisez pas. Et mon mari a dit, c'est bon, c'est correct, ce n'est pas vous qui ne pouvez pas aller avec nous, c'est vous qui a décidé de rester. Et le monsieur, il a fait une vidéo, on a monté la tente, il a fait le feu pour nous. Il y avait beaucoup de bruit des animaux. On ne les voyait pas, mais il y avait beaucoup de bruit des animaux qui faisaient beaucoup de bruit. Les animaux qui rougeaient. Il n'y avait même pas où mettre la tente. Le monsieur, le guide, là, il a coupé les choses, les bois, pour faire un petit espace pour mettre la tente, pour qu'on pouvait se coucher. Lui, il a fait la tente, il nous a regardé. Il nous a regardé beaucoup fixement. Après, il est passé, un monsieur, il a dit à mon mari, on était sale, parce qu'on a marché beaucoup dans la boue, on s'est traîné par terre. Il a dit à mon mari, vous êtes trop seul, vous devrez aller chercher de l'eau, je vais vous montrer où. Je dis, moi, je ne veux pas rester tout seul, vous devez rester là, on va dormir comme ça, je ne sais pas. Et on est rentré dans la tente, j'avais ma Bible, j'avais mon chant d'espérance, on a commencé à prier, on a commencé à chanter, on a commencé à prier, on a chanté. Et après, lui, il s'est endormi, les enfants sont endormis. Moi, je ne pouvais pas dormir parce que les bruits des animaux, ça me dérangeait, j'avais peur, je ne pouvais pas dormir. Et en même temps, je sentais comme si je voyageais. J'ai vu, vous n'étiez pas là. Mais moi, à chaque fois que je sens que Oh, que je sens que quelque chose veut me faire tomber. Ça me donne l'envie de continuer. Parce que je sais que Dieu, il est vivant, il est réel. Cette soirée-là, j'étais dans c'est comme si je me sentais dans un voyage. Je me sentais, après qu'on a prié, on a fait tout, et il s'endormit, je me sentais dans un voyage. Je me suis m'en aller, je me suis en allé comme si j'avais, c'est comme si j'allais m'endormir, mais j'étais pas endormi. J'ai vu un personnage devant la tente. Le personnage, il était là, il y avait comme, je dis que c'est un personnage parce qu'il y avait la barbe, une barbe qui couvrait toute sa poitrine. Il était toute blanche. Sa barbe, il y avait beaucoup de lumière, on pouvait pas voir son visage. Il y avait beaucoup de lumière qui éclairait son visage. C'est comme si devant la tête, ça, il est devenu la journée. Il était éclairé. Il avait des épées dans ses mains. Il est resté devant la tente toute la nuit. Et là, c'est comme si j'avais quelqu'un qui me passait la main dans la tête, comme si qui me calmait pour m'endormir. Je me sentais en sécurité avec cette présence. Je me suis endormie tranquillement en regardant l'image devant la tente, en regardant le personnage entouré de lumière. Je me suis endormie. Le lendemain, la Malbéli qui était épuisé, qui pouvait pas marcher, qui avait pas de force, qui pleurait, qui disait qu'on va mourir là. C'est comme si que vous voyez quand vous regardez les films là, les gens prennent des drogues, des choses qui pour être vigoureux. Je me sentais comme ça. J'avais beaucoup de force. J'ai pris toutes les affaires. J'ai dit mon mari, on va y aller. J'ai trouvé la force. Quand je me suis levé le matin, mon mari m'a dit, lève ton pied. J'ai levé le pied pour regarder la blessure, pour qu'on pouvait la nettoyer, pour qu'on s'en aille. Il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de sang. Il était guéri, il était effacé. À nos jours, je cherche la marque où j'avais la blessure sur mon pied. Il n'est plus là. Mon mari m'a dit, OK, allons-nous, on va y aller. On a ramassé les choses, on a commencé de marcher. Moi qui me plaignais, qui criais, qui disais qu'on va mourir là, il était 7h du soir, tout le monde voulait se coucher, je voulais marcher encore. Je voulais y arriver. Tout, je me plaignais plus, je marchais. Mais je dis merci à Dieu parce qu'il était là, il est toujours là. Et je sais, même si parfois on traverse des moments difficiles, il va être toujours là. Et je dis merci à mon Dieu.
Oh,
merci de m'avoir écouté.